Cube Radio.
Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Je suis Philippe Vincent.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a.
Philippe Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
une décision. Écoute, de... j'en revenais
plus. Rien dire, on peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Rencontre Robitaille Foisy.
En fait, on peut plus rien dire en anglais. Ça, c'est ça la catastrophe.
C'est interdit, c'est oui, c'est l'omerta.
Ben, la Gestapo francophone.
Voilà.
Va venir. Ouais.
Achtung, t'as écrit en anglais? Je vais.
Il faudrait
réquisitionner ton ordinateur.
Te souviens-tu du sketch de RBO?
Non.
De Rock et Belles Oreilles qui avait fait les nazis à Westmount.
Ben oui.
C'est très drôle, ça. Il leur faisait répéter Poutine! Mais c'était une autre Poutine, déjà trop. L'alimentaire.
Ouais, c'était même déjà trop de leur demander. Alors, Mme Andelade est allée défiler avec des gens vraiment qui aiment beaucoup le Québec. Philippe Vincent?
Ah oui, excuse, je pensais qu'Antoine voulait commencer là-dessus, mais oui, elle est allée manifester contre le projet de loi 96 et... pour Mme Anglade, je pensais à tout ça, puis je me dis, c'est quand même fou comment dans la dernière année, les libéraux sont passés d'un parti qui avait 27 propositions pour renforcer le français, à un parti qui renforçait ce projet de loi-là, à un parti qui manifestait contre le projet de loi et qui manifestait, je pense que c'est beaucoup de monde aussi qui en ont contre le fait qu'ils manifestaient aux côtés de ceux et celles qui ont tenu des propos, on va dire, un peu exagérés, notamment sur la Gestapo, pour parler de l'Office québécois de la langue française, pour parler de génocide culturel à ce sujet-là. Et donc, pour Mme Anglade, c'est un peu une forme d'aveu d'échec. S'il n'y avait pas eu les deux partis anglophones, si la communauté anglophone n'avait pas retourné sa chemise contre les libéraux, il n'y aurait pas eu besoin d'aller manifester. Si les libéraux avaient bien défendu en comité parlementaire les désirs des anglophones, il n'y aurait pas eu besoin d'aller dans cette manifestation-là habillé de rouge pour dire aux anglophones hey, on est là, oubliez-nous pas. Donc, ça a été un peu cet aveu d'échec-là. Après, est-ce qu'il y a moyen
d'améliorer? Mais en même temps, c'est les gens de la communauté anglophone au sein même du Parti libéral qui ont défendu les thèses les plus, comment dire, hardies en matière de défense du français. C'est David Birnbaum et c'est Greg Kelly, pardon.
Dans les propositions libérales, il y a aussi le fait de geler, par exemple, le nombre d'étudiants dans les cégeps anglophones. Donc, quand Mme Anglade va manifester contre l'une des principales revendications des manifestants au cégep Dawson, qui est de geler les admissions dans les cégeps anglophones, disons que c'est un petit peu compliqué de suivre la POC là-dedans. Après, elle aurait pu marquer des points en attaquant, par exemple, certaines dispositions du projet de loi sur l'Office québécois de la langue française. C'est vrai qu'il y a des articles, notamment celui qui permet de fouiller dans tous les ordinateurs ou le matériel électronique de ceux qu'on va perquisitionner.
Là,
on dit, c'est quoi les limites, là?
Tu sais que c'est standard, ça, c'est-à-dire que ça soit le protecteur du citoyen ou n'importe quel organisme, c'est copié-collé là, d'une loi à l'autre. Là. Ça devient épouvantable parce que c'est l'OQLF, mais il y a tellement de délire autour de ces parties-là de la loi 96. C'est comme les ordres professionnels. Moi, je lisais en fin de semaine un chroniqueur qui disait, écoute, on va interdire à un membre du barreau de parler à un autre membre du barreau en français. Voyons, c'est complètement faux. En anglais, ouais, ça. C'est complètement faux. La loi 96 est là pour faire en sorte que les ordres professionnels, qui sont des extensions de l'État, privilégient le français. Alors, il faut pas capoter, là. En tout cas, faut pas importer les interprétations les plus dingues dans la communauté anglophone, dans nos chroniques. En tout cas, j'en reviens pas.
C'est tout?
Ouais, c'est tout. Ça va continuer de faire discuter parce que c'est pas adopté encore ce projet-là, puis on en parle pas mal, puis on va continuer d'en parler un peu tous les jours.
Mais est-ce que Mme Andelade, là, s'est vraiment barrée de tout le vote francophone en participant à cette marche-là?
Ben, pas tout le vote, là, tu sais, mais t'as quand même
plus
70% de la population qui veulent une loi qui aide le français. Donc, tu sais, c'est jamais 100% des gens, là, mais quand même 70, ça peut ça peut nuire si tu vois un chef d'un parti qui, jadis, a fait de la langue française la langue officielle du Québec, a utilisé la clause dérogatoire en 88 pour se prémunir contre une interprétation délirante de la liberté d'expression de la part de la Cour suprême. Tu sais, Ça, c'est le passé du Parti libéral. Là, son avenir est... je sais pas où il est, mais...
Je sais pas, moi non plus.
C'est difficile.
Mais j'ai pas l'impression que c'est la pire chose qui va la barrer des francophones. Je pense que juste le fait de plus être là puis de plus savoir ce qu'elle représente, ce que ce parti-là représente...
C'est ça. C'est un problème d'identité. Exactement.
Mais celle qui veut se présenter à la place de Pierre Arcand, là, j'oublie son nom, tu sais, qui
Madame Sette-Lacoué.
Sette-Lacoué, oui, c'est ça. Contre la loi 21, contre le projet de loi 96, la ligne est lancée.
C'est correct qu'au Québec, il y ait de la place. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde au Québec, c'est pas tous les Québécois qui appuient la loi sur la laïcité, l'interdiction de port des signes. Non, mais c'est l'interdiction des signes religieux.
Ben
c'est, ça, c'est pas tous les Québécois francophones qui appuient ça. C'est pas vrai. Donc, c'est bien qu'il y ait une voix politique qui s'affirme, parce qu'ultimement, c'est un peu ça le gros problème avec le Parti libéral. Parce qu'on était contre, on s'affirmait pas, on l'était plus, on savait pas trop. Fait que ça fait en sorte que finalement, tu sais plus trop c'est quoi.
Il y a un autre candidat, là, André A. Morin, qui va se présenter dans l'Acadie. C'est un ancien patron des procureurs fédéraux ici au Québec. Or, le procès secret, là, le fameux procès secret là qui a été fait au Québec, qui avait même pas de numéro de dossier, c'était tellement secret là que... Tu sais, il a fallu...
Il n'y a plus rien qui reste, là.
Oui, c'est ça. Il a fallu, donc, un appel pour savoir que ça existait. Ben lui, il était chef des procureurs. Il dit qu'il n'a pas autorisé ce procès-là, mais son rôle demeure trouble quand même dans cette affaire. On a des belles questions à poser aux candidats. C'est toujours le fun avec les élections, justement. On a toutes sortes de choses à discuter.
Pendant ce temps, l'essence est à 2,10 $. Puis je pense pas que la proposition du Parti québécois tienne la route. Philippe Vincent.
Non, ben c'est un peu, j'attendais Paul Saint-Pierre Plamondon tantôt avec Mario essayer de l'expliquer, là, parce qu'ultimement, ce qu'il dit, c'est qu'on va mettre un prix. On va fixer un prix, puis on va dire, on est en situation d'urgence, voici le prix maximum pour vendre le prix du pétrole. Il dit que d'autres juridictions ont des lois qui vont le permettre ou travaillent sur des lois qui vont le permettre, mais par exemple, la France ne le fait pas en ce moment. Puis on a posé la question à M. Saint-Pierre Plamondon, d'accord, mais mettons qu'on le faisait. Mettons qu'on dit, parfait, vous pouvez pas vendre le pétrole à plus que 60 $ le baril ici. Il dit, ben oui, ça va fonctionner. Comment? Il dit, ben, si t'as un oligopole de gens qui vendent des steaks, puis on leur dit, vous allez quand même faire du profit, ils vont quand même vendre leurs steaks. Sauf qu'en ce moment, il y a un problème avec les ressources pétrolières. Il y a beaucoup de pays qui en veulent et ils manquent de stock. C'est pour ça que le prix augmente. Et ça tient pas la route de dire, ben, les pétrolières, ici, dans une province et non pas dans un pays qui n'est pas producteur de pétrole, qui ne peut pas contrôler sa propre production, n'a pas les leviers pour mettre en place ce genre de politique-là. Et donc, c'est un peu populiste,
quand même,
un peu simpliste.
Ouais. Cette position-là, surtout qu'on apprenait quand même en décembre, là, que le Parti québécois voulait proposer une taxe sur les grosses cylindrées. Donc, il voulait que le pétrole coûte plus cher. C'est vraiment paradoxal.
Mais là, la taxe s'impose par elle-même. Là. Les grosses cylindrées, ils vont gazer comme des psychopathes puis ils vont payer la facture.
Sauf qu'après ça, il n'y a pas d'alternative. Puis c'est ça le gros enjeu.
Si tu plafonnes le prix de l'essence,
ben c'est ça.
Ça c'est comme pas logique avec
ça profite à qui? Ça profite aux producteurs de 150.
Ouais. C'est ça.
Bon, pourquoi pas organiser des manifs devant les bureaux de M. Montreuil, mettons?
Achetez-vous des voitures électriques, puis arrêtez d'en parler.
Tu achètes tout tes voitures électriques.
Il y en a. Hey, sais-tu quoi? Je vais vous le dire comment. Pognez-vous un courtier. OK? Dans un concessionnaire qui importe des voitures de la Californie. Moi, j'ai fait ça avec la Leaf il y a 4 ans. Fait que là, il importe des voitures américaines au Canada. Et puisqu'elle n'a pas été plaquée au Québec, tu as le droit à la subvention de 4 000 $. Et là, tu commandes des voitures électriques aux États-Unis. Puis ça, ça se fait, puis c'est pas plus cher. Moi, j'avais payé ma Leaf 15 000 $. Puis elle avait comme 3 à 3 ans, je me souviens plus, mais ça coûte pas cher. Puis si vous voulez vraiment une voiture électrique, ben vous passez par un concessionnaire ou un courtier, il y en a plein là. Puis ils vont vous commander une voiture, puis elle va arriver, puis elle va être en bon état, elle vient de la Californie.
D'ici un an ou...
Non, ça a pris. Non, moi ça a pris comme 2 semaines.
Ah oui, hein.
Ben oui.
Mais il y a 4 ans.
Il y a 4 ans, mais...
Parce qu'on est en pénurie, là.
On va, Carl, demain, on va vérifier comment on peut...
C'est une bonne idée.
On va faire ça demain à l'émission. Okay, un mot sur les héros qui se font voler.
Oui, le Parti québécois est un peu tanné de se faire piquer ses héros. C'est Ruba Gazal qui a remis la médaille de l'Assemblée nationale à Yves Michaud samedi. Yves Michaud, qui est quand même un ancien député libéral, ça faut le rappeler, dans les années 60, brièvement. Mais ensuite, c'était un grand ami de René Lévesque. Puis évidemment, il a été militant du Parti québécois. Il voulait même devenir, dans les années 2000, il voulait devenir candidat. Mais il énervait vraiment Lucien Bouchard avec ses positions radicales sur le français. Puis il y a même eu une motion qui a été adoptée le 14 décembre 2000, comme il l'a nommé Yves Michaud, la motion scélérate, qui lui reprochait d'avoir tenu des propos inacceptables envers la communauté juive, propos qu'il avait jamais vraiment prononcés. Donc c'est vraiment étrange. Et justement, Ruba Gazal voulait corriger cet affront-là. Puis Monsieur Michaud, évidemment, il est assez âgé, hein, il a 92 ans maintenant. Il est atteint de la maladie Alzheimer. Il se souvient de quelques trucs. Beau texte dans le Devoir de la part de Marco Belair-Cirino, mais ça fâche du côté du Parti québécois. On dit c'est quand même notre famille politique qui se fait enlever ses héros. On craint qu'on fasse ça aussi avec René Lévesque, le centième anniversaire de sa naissance. Le gouvernement a donné plusieurs millions là, pour célébrer la mémoire de René Lévesque. Il y a Gérald Godin aussi qui est revendiqué par Ruba Gazal aussi. Puis il y a Camille Lorrain. Camille Lorrain, Simon-Jeanin Barrette l'a honoré la semaine passée avec la famille de Monsieur Lorrain. Il a voulu l'honorer aussi. Je rappelle que Camille Lorrain, c'est celui qui a fait adopter la loi 101. C'était celui qui l'a proposé. Et, donc, grand péquiste. Et je vais te dire, la semaine passée, là, il était vraiment fâché. On va écouter Pascal Bérubé en chambre jeudi dernier qui s'élevait contre une motion qui avait été adoptée sans débat la part du gouvernement.
Pour ce qui s'est passé hier, le leader du gouvernement a proposé une motion pour rendre hommage au grand Camille Lorrain. Il a confisqué le droit de sa famille politique de pouvoir lui rendre hommage, ne serait-ce que 2 minutes. C'est inacceptable et ça nous a beaucoup blessés. J'en ai parlé au ministre, ça ne l'a pas ému outre mesure, il riait. Je trouvais ça intéressant d'un point de vue tactique. Ça nous a blessés. Cette appropriation politique, parce que c'en est une, elle doit reposer sur les œuvres, pas sur les intentions.
Moi, j'ai Bernard Landry en tête. Là. La patrie avant le parti.
Oui.
C'est ce qui importe.
Si les autres partis s'approprient tes grands personnages, ça veut dire que t'as fait des petits.
Que t'as accompli quelque chose.
Oui, c'est ça.
Mais là, ils veulent...
Ou réveille-toi, là, tu sais, je veux dire... Exactement. Je suis là avant.
Ouais, c'est ça.
J'ai posé la question à Pascal Bérubé au téléphone tout à l'heure. Je disais, avez-vous voulu donner une médaille à Yves Michaud, mettons?
Oui.
Puis là, ils ont dit, ça fait des années qu'on se bat pour... c'est même la CAQ, le 11 décembre 2020, qui a refusé une motion pour réhabiliter Yves Michaud. Ça n'a pas fonctionné, donc voilà.
Tout est dans tout. Parfait.
Mais ils sont d'accord avec la médaille.
Ça explique tout, hein? Monsieur Foisier, Monsieur Robitaille, un gros merci. À demain.
Hey, bonne journée. Salut.
Certainement.